va aiguisé bleu, et où ses doigts ont retrouvé l'empreinte des doigts du Joseph. Elle en a la pleine main de cette pierre, et elle en sent tout le lourd en la balançant le long de cette lame de faux. Le vent s'est chauffé au soleil monté. Il est là, couché sur le plateau, presque en sommeil. De temps en temps, il remue les bras ou les doigts, ou ses cheveux dans les blés et les lourdes herbes jaunes ballottent comme de l'eau. Julia a fait le pas, le premier pas, celui qui décide. Elle s'est trouvée alors à la lisière du champ. Le champ est là, contre elle, il craque doucement sous l'épaisseur du blé. Elle a bien assujetti cette large ceinture de cuir dur et chaud qui lui serre les flancs comme un bras et placé la corne de bœuf juste à la pente de laine, à l'endroit où la placent les hommes. Elle s'est penchée. Elle a porté sa force à droite, elle l'a lancée doucement en glissade du côté de la gauche. Alors, la grande fosse est entrée dans le blé. Voilà maintenant des andins alignés, bien alignés, foi de Dieu, en s'appliquant, en relevant un peu la pointe de la faux. Quand les tiges coupées glissent, ça tombe en belles dentelles régulières sur la chaumera. C'est aussi bien fait que de la main du Joseph. Il y en a aussi de la force dans ses bras. Julia va courbée, les jambes écartées, la corne de bœuf battant son ventre, se balançant de droite à gauche dans l'équilibre de cette grande lame plate qui rase le sol comme une hirondelle. Elle était déjà là-bas vers le milieu, elle a entendu le roulement d'une carriole, le trot d'un cheval s'est arrêté et on a crié. Oh, là-bas! Elle a retenu la faux lancée, elle s'est redressée. Elle s'est fait de l'ombre sur les yeux avec la main. Oh, Gustave, elle a répondu, j'y vais, et la faux posée, elle est venue vers la carriole. La sueur se refroidissait en coulant tout le long de sa peau, mais à mesure le soleil chauffait comme une grande bouche approchée d'elle. Elle est devant le cheval. Elle lève les bras pour rattacher son chignon. Ses aisselles noires et épaisses s'ouvrent. Le cheval détourne le museau et secoue les oreilles. « Et cette truie ?» demande Gustave. « Elle est toujours là-bas, » dit Julia. « Elle va mieux ?» Non, ça lui a pris le dessous du ventre. « À se décider, » dit Gustave, « on gagnerait à se décider tout de suite. » Julia reste un moment sans rien dire avec des épingles à cheveux entre les lèvres. « Tu crois que ça risque ? Ça peut risquer qu'elle te crève un beau matin, voilà le coup. » « C'est guère le temps, » fait Julia en regardant l'air trouble comme une vitre. Gustave se penche. « Le temps, ma fille, c'est de tout maintenant. Je la tue, je la mets dans la glacière et ne t'inquiète pas de maladie, c'est pour les soldats. Et le prix, » fait Julia. « Ça a été dit un bon coup, je démords pas. » Elle hésite. « À ton aise, » dit Gustave, et déjà il rassemble les guides et prend le fouet. « Oh, le fait est, » dit Julia et elle met le pied sur le marchepied. « Eh oui, » dit Gustave, « t'en vaut de suite, monte, toi tire-toi d'ici, » il dit à l'apprenti, le petit est coincé entre le patron et Julia. Bien coincé, le banc est étroit, la femme est large et dure, mais les secousses de la carriole mal pendue les tassent. Il n'a pas quitté ses genoux de ses mains en coquille, il est raide, il n'ose pas trop s'appuyer au patron. Il se serre contre la femme chaude comme le soleil et si bien graissée de sueur sous la chemise et la mince jupe, qu'elle le mouille à travers tout ça et qu'il en est collé contre elle. « Madeleine, c'est pour la truie. Oh, moi je vais, » dit Madeleine, « jusqu'aux gardettes me faire prêter trois pains. J'ai oublié de le dire au père quand il est parti. » « Je ne sais pas, » dit Julia, « si on en viendra à bout, Gustave et moi. Elle est mauvaise, le mal doit la ronger en dedans. » Gustave rit. « Laisse, on fera bien nous seuls, ne t'inquiète, s'agit de savoir, ça se mignote tout comme une femme. » Il fait le petit œil luisant et il regarde la poitrine de Julia, les jeunes épaules, les poils qui frisottent hors de l'entrebras. La soue est une grande cave en voûte, on ouvre la porte, une haleine froide souffle, dedans c'est noir. Il faut rester au seuil un moment pour s'habituer à l'ombre, au froid, à ce haut vinaigre de pissa et de paille pourrie. « Je la vois, » dit Gustave, « elle est là-bas au fond, j'y vais. »« Méfiance, » dit Julia, « n'y va pas sans rien. » Il a fait trois pas, mais comme il arrivait près de la bête, elle s'est levée si subitement que le fumier aspire tout son jus et Gustave saute de côté. « Ferme la porte !» Julia qui guettait ferme la demi-porte, elle rit parce que Gustave enjambe la planche et sort rouge, soufflant et l'œil un peu bousculé. La truie cogne la porte du groin, Babine trousse ses ailes, tord son nez, souffle, déchire le bois de ses dents jaunes et le broie à pleine mâchoire. Elle a des yeux comme des trous avec, au fond, du sang caillé. Tu vois, pour vouloir y aller sans rien, dit Julia, les joues toutes gonflées de rire. Gustave reprend haleine. Il regarde la truie. Il regarde Julia. Il mord sa moustache. Je l'aurai sans rien, il dit. Faites-vous arracher un bras à coups de dents. Elle n'arrachera rien du tout, recule-toi. Vous faites l'enfant, Gustave. Enfant ou non, recule-toi, dit Gustave sèchement. Va plus loin encore. Pas de femme pour ça. Ce que je veux faire, c'est un travail d'homme.